carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Un débat public tel que, à l'Académie des Beaux-Arts le 28 novembre dernier. Une première dans les us et coutumes de l'Académie. Peintres, architectes et graveurs de l'Académie interviennent sur différents sujets. Sur l'usure de la représentation en art, sur les opposants à la modernité, sur les problèmes d'environnement et la production architecturale, sur la notoriété des artistes et de leur œuvre. Voici le dernier volet de la retransmission d'une journée entière à l'Académie des Beaux-Arts qui s'est déroulée le 28 novembre 2012. Quels sont les doutes, les questions et les points de vue des académiciens sur la création d'aujourd'hui? Comment se situent-ils, désireux de faire partager au public du monde de l'art le fruit de leurs réflexions? L'Académie avait organisé une journée d'ouverture à l'Institut pendant laquelle 5 des académiciens, 5 de ses confrères ont pris la parole pour lancer le débat. Canal Académie vous invite à écouter la retransmission de toutes ces interventions. Retrouvez donc les académiciens Claude Abeille, François-Bernard Mache, le correspondant François Chalin, Bernard Perrine et le peintre académicien Pierre Caron. Leurs interventions sont suivies de questions posées par Guy Boyer, rédacteur en chef de Connaissance des Arts. Et vous pouvez écouter également la présentation de cette journée par celui à qui en revient l'initiative, Monsieur François Bernard Michel. Il vous suffit de taper le nom de tous ces académiciens dans le moteur de recherche de Canal Académie pour les entendre. Voici donc le dernier volet de cette journée exceptionnelle, consacré en fait au débat final et aux questions-réponses avec la salle.
Alors je vois déjà dans la salle des intervenants, des bras qui se lèvent, des gens qui veulent prendre la parole. Est-ce que je commence d'abord par le premier qui avait levé la main, Monsieur de Rougemont?
Non, je savais Pierre Caron, habitant du côté d'Agen. Il avait cet esprit du sud comme ça, léger, fort critique toujours, mais très nuancé selon les vents, etc. Et je viens d'apprendre qu'il habite maintenant la Bretagne et je pense qu'il est devenu un menhir pensant.
Professeur Binet.
Moi, je voulais reprendre ce qu'avait dit, pour reprendre des interventions, ce qu'avait dit Claude Abeille et insister sur deux choses. D'abord, sa modestie. Il a pris un titre qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'il fait. L'homme qui marche, et moi pour l'homme qui marche, c'est pas tout à fait ce qu'il a montré, mais dans tout ce qu'il a montré, il y avait toujours le vêtement qui était là, et comme il n'a travaillé, enfin, il n'a travaillé que, il a surtout travaillé sur le vêtement, jamais il nous a signalé ce qui s'approchait de son travail. Ce que je trouve un exemple de modestie tout à fait exceptionnel. Oui. Et même chose pour l'inverse. Je ne suis pas sûr qu'il aime beaucoup Hélion. Je ne suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien. Je ne suis pas sûr qu'il aime beaucoup. Mais je pense qu'Hélion a fait des choses très intéressantes, qu'il a inversé ce qui se passait à Paris, c'est-à-dire que quand Paris devenait abstrait, lui devenait figuratif. Et que d'autre part, il a été quand même jusqu'à un formidable travail sur la couleur et la création d'un nouvel alphabet. Et je signale à ceux que ça intéresse qu'actuellement, au musée Matisse, là où est né Matisse, à Cateau-Cambrésis, il y a une superbe exposition d'Hélion qui est quelqu'un, mais c'est hors sujet, qui a été totalement sous-estimé parce que le côté figuratif abstrait s'est complètement dépassé. Mais à ce moment-là, c'était très violent, donc séparation totale.
Enfin, l'exposition est sur Herbin, mais nous apprécions beaucoup la c'est référence
Herbin.
À Hélion.
Herbin, qui est actuellement à Cateau-Cambrésis. Pardon, Herbin.
Alors, je voulais juste signaler, avant de passer la parole à ma droite, la présence quand même de nombreuses personnalités dans cette salle qui nous ont fait la joie de venir, et j'en suis très content. D'abord des conservateurs de musées comme Daniel Marchesseau du musée de la vie romantique, Jean-Michel Bourg qui est co-commissaire de l'exposition Dali au centre Pompidou, il y a Valérie Bajou qui vient de Versailles, et puis des galeristes comme Odila Etouares, monsieur Richard devant moi de la galerie de l'univers du bronze, des journalistes comme madame Champenois que j'entreaperçois là-bas. Donc j'imagine que vous avez tous envie de réagir à tout ce qui s'est dit. Edith, peut-être, si vous voulez prendre la parole.
Oui, moi, je voudrais relever quelque chose. Bon, je passe sur, les réflexions de M. Caron, avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord et qui représentent peut-être une partie de l'Académie des Beaux-Arts, mais je pense que c'est une petite partie. Voilà, moi, je voudrais réagir sur quelque chose qu'a souligné M. Perrine, à savoir la notion actuellement de recyclage. Et c'est une chose que l'on voit très, très, de façon très, comment dire, très active, enfin
très régulière,
enfin très de façon très très prégnante dans la composition musicale actuellement. C'est-à-dire qu'on est à un moment où, bon, à chaque période, il y a eu cette question, qu'est-ce qu'on fait après ? Mais maintenant, parmi les jeunes, justement, il y a une telle hérédité, un tel patrimoine à gérer, qu'une des solutions trouvées est justement de recycler, et de recycler d'ailleurs de façon complètement hétérogène, c'est-à-dire un peu toutes les époques, et de faire en quelque sorte des petites briques qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Et il y a notamment des sites internet qui montrent toute la musique qui est potentiellement recyclable.
C'est vrai.
C'est une chose qu'on retrouve, quand même une tendance qu'on retrouve dans toutes les expressions artistiques.
Oui, c'est vrai. C'est très vrai pour les arts plastiques aujourd'hui, où on voit une quantité d'œuvres faites à partir d'images, à partir de bribes reprises sur Internet ou sur tous les moyens de diffusion.
Et c'est quand même très intéressant parce que c'est l'image d'une certaine société qui, finalement, ne sait pas quoi faire de son patrimoine. Et voilà.
Merci.
Et qui veut rejeter ce poids de l'histoire dont je parlais, mais avec un moyen qui n'est pas le plus convaincant. Parce que l'histoire se venge en redonnant aux déchets ainsi traités un poids que leur assemblage n'a pas.
Ne croyez-vous pas, malgré tout, que cette réappropriation que l'on fait de ces, entre guillemets, déchets, de ces productions antérieures, est-ce que tout ça ne passe pas à la moulinette de notre propre culture, de notre propre connaissance, et qu'il y a quand même à voir dans cette manière de le traiter quelque chose qui nous vient des maîtres anciens ?
Je crois que c'est typique d'un inventaire après faillite. Ozone, au IVe siècle, a fait des santons où il a fait des montages avec des vers ou des fragments de vers de Virgile pour en faire un poème obscène. Ce n'était pas un hommage à Virgile. C'était une façon de dire tout ça, ça ne vaut plus rien. On peut s'amuser avec, c'est des déchets.
Oui, mais quand Ingres cite Raphaël, est-ce qu'il ne fait pas la même chose ? Il reprend le modèle de la Fornarina, il reprend la ligne, la grâce de Raphaël pour en faire quelque chose de totalement différent, puisqu'il va distordre les formes, il va rajouter des vertèbres à son odalisque. Ce n'est pourtant une référence à l'art classique, mais qu'il bouleverse, qu'il casse.
Oui, mais c'était la croyance qu'il y avait eu une vérité absolue à un moment et qu'on pouvait s'en rapprocher par d'autres moyens, mais c'était la croyance du classicisme qu'il y avait eu une vérité trouvé dans l'Antiquité, on en avait retrouvé une partie à la Renaissance et on essayait de faire aussi bien, mais c'était du conservatisme quand même.
Claude Abeille voulait réagir ?
Oui, non, juste un peu pour Raphaël. Raphaël n'est pas un déchet quand même.
Non, mais je ne pense pas que c'est un déchet, mais une chose antérieure,
Pas encore.
Non, certainement pas. L'exposition du Louvre le montre, d'ailleurs.
Non, mais alors, il y a pour moi une très grande différence entre Roscoe et Yves Klein, quand même. Je dois avouer. Moi, comme vous savez, ou bien ça me regarde, ou bien ça ne me regarde pas. Bon, je dois avouer que Yves Klein ne me regarde, mais pas du tout. Mais pas du tout. Roscoe, si. Roscoe me regarde. Parce que Roscoe, c'est une dimension spirituelle. Alors que Yves Klein, il fait des tas de choses avec Buzzati, etc.
Avec
Buzzati, l'histoire d'or. Ils mettent de l'or dans la scène, il y a un photographe.
Pardon, moi j'ai connu Yves Klein et je crois qu'il avait à sa façon une mystique réelle. Bon, c'était un homme habile, mais il avait son architecture de l'espace, de l'air. Tout ça, c'était bien sûr des formules creuses, d'une certaine manière, mais il avait un art de convaincre et il semblait y croire.
Ah ben, il y croyait peut-être, mais moi, j'y crois pas. Alors, non.
Alors, attendez, on va peut-être pas se battre pour nos croyances ou notre incrédulité face à l'œuvre d'Yves Klein. Monsieur Parent, je crois que vous vouliez prendre la parole.
C'est un grand peintre, Roscoe. Hein.
Moi, je peux pas laisser parler de Klein comme ça.
Alors, allez-y.
D'abord, vous en parlez légèrement, et c'est choquant. Parce que moi, j'ai travaillé avec lui 3 ans, 4 ans, des soirées entières. Nous avons fait des dessins en commun, une des empreintes en commun, et notamment revenait le leitmotiv toujours du monochrome. Il était si sûr du monochrome que quand j'ai voulu choisir une œuvre chez lui, je n'étais pas encore dans le bain suffisant, je voulais prendre un monochrome avec des éponges. Et il m'a dit non, c'est pas moi ça. Moi, c'est le monochrome lisse, tout seul. Et ça m'a suffi pour faire comprendre que j'étais pas encore à l'état suffisant pour piger. C'est-à-dire que je n'avais pas l'étalonnement mental qui me suffisait pour parler avec ce type-là. Je ne vous en veux pas, mon cher ami, vous savez que j'adore votre sculpture, j'en suis fou depuis que j'ai vu à Marmottan les premiers plis que je ne connaissais pas de vous, donc je ne parle pas de ça. Mais dans l'art, il y a des cloisons, il y a des cloisonnements, c'est ça qui en fait la beauté. Il y a des endroits où on ne peut pas pénétrer, et puis d'autres où on pénètre. Si on ne peut pas pénétrer, il le dit à sa manière. Il dit « ça ne me dit rien ». Donc, eh ben, il est honnête. Il s'en va. Mais s'il ne peut pas pénétrer, que parce qu'il ne peut pas pénétrer, il pique une colère et il dit « c'est de la merde ». Comme me disait par exemple un type que j'estimais beaucoup et que vous avez tous connu, qui s'appelle Gérard Cassio-Talabo, un critique d'art éminent à travers le monde qui a lancé des écoles, etc., sur la figuration narrative et tout. Quand il me parlait, on était très amis. J'ai eu un article dans la première, sa revue, là, vous savez, spéciale, extraordinaire. J'ai eu un article dans le premier numéro. Bon, donc nous étions amis. Et il me dit, Zé, toujours, je ne comprends pas que tu travailles et que tu discutes et que tu copines avec un clown pareil. Bon, si on en est là, faut s'en aller. La terre est assez grande. Il y a assez de place pour qu'on puisse ne pas jeter l'anathème sur un mec sous prétexte qu'on n'est pas assez religieux, je pourrais dire à ce moment-là. Qu'on n'a pas compris le fin fond. Moi, quand Yves Klein parlait de monochrome, quand il me parlait, il pouvait parler 20 minutes là-dessus. Quand j'ai assisté à l'exposition l'exposition qu'il a donnée où il peignait la peinture en croix et en diagonale et où il disait que la peinture s'était foutue, alors qu'il était fils d'une peintresse intéressante et que son père également. Bon, il savait qu'il était dans un milieu, là. Il faut comprendre ce truc-là. Vous êtes touché par la grâce, vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas touché par la grâce, eh ben regardez le Klein avec mépris incompréhension totale, et puis c'est tout. Ouais. Mais ne faites pas des procès en sorcellerie comme ça.
Non, des avis divergents, on va dire. J'aimerais donner la parole à votre voisin Jean-Michel Bourg qui est là, parce qu'en fait, on nous a parlé plusieurs fois de cette banalisation de l'image. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que finalement, cet art contemporain joue beaucoup de cette banalisation de l'image?
Je crois que oui. Il y a un chiffre qui a été donné, c'est les 800 milliards de clics,
oui,
qui sont quand même un chiffre extrêmement frappant, enfin qui frappe les esprits. Effectivement, il y a multiplicité de la possibilité de faire une image et la facilité de faire une image. Mais sur la question du recyclage, j'ai envie de dire que c'est inhérent même à l'histoire de l'art, le recyclage. D'une certaine manière, il a toujours existé. Depuis l'Antiquité, il y a eu recyclage. Aujourd'hui, évidemment, avec tous les médiums de reproductibilité, enfin, une reproductibilité extrêmement facile, et l'Internet et l'ordinateur, évidemment, augmentent les vitesses de possibilité de reproduire les images, tout ça devient effectivement extraordinairement banal. Mais pour autant, la grâce dont parlait Claude Parent à propos de Yves Klein, je pense qu'elle peut toujours se produire. Elle continuera de se produire, ces moments de grâce.
Et alors,
pour Klein, enfin là, je parle un tout petit peu sous le contrôle de mon voisin, parce que malheureusement, je n'ai pas connu Yves Klein. Mais alors, peut-être qu'Yves Klein, finalement, venait d'une autre planète. C'est-à-dire qu'il n'avait pas, justement, ce background de l'histoire de l'art. Il était plutôt mu par d'autres notions qui étaient des notions plutôt mystiques. Et notamment, il ne se référait absolument pas ni aux incohérents, ni à Malevitch. Donc, son monochrome ne s'inscrivait pas dans une histoire du monochrome. Il venait du monde du judo. Il avait vu d'autres choses, notamment qui l'avaient fortement impressionné, comme une installation de François Dufresne. Et je pense qu'il a fondé son principe d'immatériel, puisque c'est plutôt l'immatériel que le monochrome, d'ailleurs, chez Klein, à partir d'une démarche strictement intime et personnelle.
Je me permets de signaler que le Japon où Yves Klein effectivement a acquis sans doute cette sensibilité est un pays où on fait des concerts de silence à la cour impériale. Traditionnellement, on sortait les instruments qui servent pour le gagaku, qui était une musique à l'époque uniquement de la cour impériale, et en silence, on présentait les instruments pendant la durée d'un concert imaginaire et on les rentrait ensuite.
Puisque Jean-Michel Bourg est là, je voudrais lui reposer une autre question, puisque vous êtes le co-commissaire de l'exposition Salvador Dali au Centre Pompidou avec Jean-Hubert Martin. Tout à l'heure, on a parlé de cette expression, moi, qui me touche, l'usure de la représentation, hein, de parler Claude Abeille tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire si, au moment du travail de Salvador Dali, on peut parler de ça, de cette usure de la représentation à ce moment-là?
Je ne pense pas. Je ne pense pas que le contexte soit celui-là. Ce que l'on peut dire sur Dali, c'est que très tôt, mais comme d'autres surréalistes, comme Artaud, il s'est posé finalement en opposant à la modernité, une modernité qui était déjà d'une certaine manière dans les conventions et largement répandue. Donc il s'est posé finalement en contre-courant, en mettant en avant plutôt des mouvements du 19e siècle, de la fin du 19e ou du début du 20e. Donc Dali s'est plutôt positionné comme ça. Mais l'usure de l'image, je ne vois pas très bien. C'est quelqu'un qui, au contraire, était complètement dans le rétinien, voilà. Dans le strict rétinien, d'ailleurs.
Ouais. Ce que je voulais juste pointer, c'est qu'effectivement, il y a une coïncidence à ce moment-là, dans ces années 40, entre un rejet de la figuration et au contraire, lui, qui va énormément la développer. Hein.
Oui, lui va la développer. Il a, comme vous savez, son modèle absolu qui est Vermeer. Alors lui, il est vraiment inscrit justement dans la tradition.
Il pense toute
son œuvre en fonction de la tradition, donc de Vermeer à Velázquez, les grands maîtres. Et en même temps, il est complètement ouvert sur la modernité de son temps. Enfin, j'ai sauté pour que ce soit très clair quand je disais qu'il était anti-moderniste. Il a toujours été anti-moderniste, mais par rapport à Mondrian, par rapport à l'abstraction. En revanche, il a été très ouvert, notamment sur les mouvements de l'expressionnisme abstrait dans les années 60. Lui qui précisément était à la fois dans la figuration et plutôt dans la miniature et dans la touche extrêmement rigoureuse. Pour autant, il s'intéresse à ces mouvements-là parce qu'il y voit en fait une continuité. Il en voit une continuité entre le microcosme et le macrocosme.
Autre question ? Je vous vois hocher de la tête depuis tout à l'heure, donc je suis ravi de vous entendre.
Oh, c'est pas une question, c'est une réflexion sur... je suis architecte, alors, sur l'intervention de Chalin. Je disais il y a longtemps que, à la Renaissance, l'architecte était le conseiller du prince. C'était celui qui permettait au prince d'exprimer sa puissance et sa richesse. Au XIXe siècle, ce rôle de conseiller du prince est passé à d'autres, les ingénieurs. C'est au moment où on a créé enfin le canal de Panama, les viaducs, les chemins de fer, etc. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, je peux pas le fonder, je suis pas sûr que ça soit juste. Enfin, je me dis, ce qui me frappe, c'est que l'architecte est redevenu, dans une certaine manière, tu l'as dit, un peu celui qui permet aux puissants, mais aux puissants de l'argent, pas aux puissants de la politique, aux puissants de l'argent, qui peut-être supplante d'ailleurs la politique, à ceux-là de s'exprimer au travers d'œuvres remarquables, au demeurant. Mais là où l'architecte était le conseiller du prince, à un moment donné, ça s'est épuisé. Et au XIXe siècle, c'est devenu une sorte de manière, une sorte d'architecture décorative qui était vidée de son sens, et a émergé justement l'ingénieur, ceux qui ont dit « mais l'architecture, ça ne peut pas être ça ». Est-ce que les productions exceptionnelles que l'on voit, les réalisations remarquables que l'on voit, est-ce qu'à un moment donné, elles ne risquent pas de sombrer, je ne dis pas lorsqu'elles sont mal imitées, mais dans quelque chose, alors je manipule ce terme avec beaucoup de précaution parce que je sais que ça peut prêter à discussion, mais une sorte de design, mais dans ce qu'il a de plus superficiel. Alors je me suis exprimé là-dessus dans un article sur de la lettre de l'Académie qui parlait de design. Autrement dit, est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné une sorte d'épuisement de ces exercices passionnants, mais d'ordre esthétique et formel, pour voir renaître alors une autre dimension qui est celle de la production un peu rude de l'architecture au service du peuple, des mises en valeur techniques où l'ingénieur et l'industrie va produire l'habitat de l'homme, et la sociologie ensuite sous notre forme reprendre sa place dans cette production architecturale. Voilà. Donc, au fond, c'est peut-être un grand cycle, j'en sais rien.
Et j'ai envie de vous poser quand même une question. Donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes Monsieur Zublena, vous avez fait le Grand Stade de France, et merci d'avoir pris le micro tout à l'heure. Est-ce que vous partagez l'optimisme de François Chalin lorsqu'il dit que le 21e siècle va reformuler des propositions avec les nouvelles demandes qui sont liées à l'environnement ou à d'autres grandes questions mondiales?
Bon, en général, j'aime bien ce que dit François Chalin, je suis à peu près d'accord sur ce qu'il a dit. Alors là, je m'engage, je considère que l'environnement tel qu'il est pris en compte actuellement dans les médias n'est pas une source de production architecturale. Je considère que c'est très joli de voir qu'on réutilise du papier pour isoler une maison, c'est sympathique, mais enfin c'est pour moi du niveau de l'anecdote. Et je pense que les panneaux solaires ou que les cellules photovoltaïques et que tout ce qui est mis en avant par les médias, les grands médias qui sont le grand public, à mes yeux n'est pas une source d'architecture.
Et dernier prolongement de cette même question, je trouve qu'a disparu complètement de la réflexion sur l'architecture d'aujourd'hui la réutilisation d'anciennes techniques de fabrication. Tout ce que Jean de Thiers avait essayé de mettre en avant lors d'une exposition remarquable au Centre Pompidou, j'ai l'impression que tout ça est devenu lettre morte alors qu'on parle d'environnement, de protection de la planète. Et il avait montré des pistes quand même.
Oui, moi je pense qu'elles ne sont pas à l'échelle des problèmes et que les questions d'environnement que vous posez, qui en gros, enfin je schématise évidemment, en gros c'est éviter qu'on dégrade la nature. Donc j'ai écrit aussi il y a très très longtemps un texte qui s'appelait « La ville recentrée » et d'ailleurs j'écrirai un jour un livre là-dessus. On pourrait imaginer que la population mondiale, retrouvant sa source initiale, construise une immense ville où tout le monde était réuni. Et tout le reste, on n'y touche plus. C'est la planète dans sa beauté et dans sa sauvagerie. Donc, pour être plus sérieux, je ne pense pas que l'utilisation du pisé, de la brique crue, le recyclage du papier, soit en fait une voie pour la création des lieux où vivent les hommes. Moi, je n'y crois pas.
Deux dernières questions, pardon, Benjamin Mouton.
Je voudrais simplement aborder une question qui vient d'être évoquée à l'instant. C'est la question de l'échelle. François Chalin comme Aymeric Jublena ont parlé de l'architecture, la production architecturale aujourd'hui, qui est l'architecture majeure, ce grand arbre qui, justement, à mon avis, cache un peu la forêt de l'autre production de l'architecture, qui est la production, j'allais dire, de petit artisanat. Il faut penser une chose, c'est que les grandes agences, à plus de 1000 collaborateurs, qui sont très remarquables et qui occupent le devant de la scène, elles sont quand même relativement exceptionnelles. L'essentiel de la production architecturale en France est faite par des agences où il y a un architecte, un collaborateur, deux peut-être, au maximum 10. Et ce qui me frappe, c'est que depuis 10, 15, peut-être même un peu plus d'années, cette production architecturale par ces petites agences est d'une qualité tout à fait remarquable. Elle ne va pas faire des étincelles, elle ne va pas faire des éclats, comme disait François Chalin, mais je pense qu'elle s'intègre de plus en plus dans une échelle territoriale où elle crée des réponses aux programmes des élus et des collectivités, qui sont des réponses de très grande qualité, de très grande simplicité, mais de très grande qualité. Et à la question de savoir la réutilisation, alors je ne vais pas dire des déchets, parce que je ne vais pas appeler ça des déchets, mais la réutilisation du patrimoine, voire la réinvention des techniques constructives qu'on a abandonnées, comme par exemple l'architecture de terre crue ou autre, apporte des réponses tout à fait intéressantes. Et ce n'est pas tellement des réponses passéistes, puisque pas loin de l'île d'Abo, entre Lyon et Grenoble, il y a ce village de terre crue, d'habitat social, qui a été fait avec des grandes signatures de l'architecture. Et c'est un village d'architecture contemporaine en terre crue. Donc ça veut dire qu'il y a des ouvertures qu'on ne devrait surtout pas ignorer, qui, à mon avis, sont pleines de promesses. J'y crois beaucoup, ça me frappe beaucoup, et je pense qu'il faut garder un œil sur ces éléments d'espoir, je crois.
Bien sûr. Et en plus, en tant que restaurateur d'architecture et de monuments nationaux, il faut prendre en compte la provenance des matériaux de proximité, puisque c'était le cas à l'époque, et qu'il faut peut-être réutiliser ça plutôt que de faire venir un bois du Brésil pour faire un devant de bibliothèque ou d'autres choses. Dernière, peut-être, intervention de M. de Rougemont.
Oui,
le révolutionnaire.
Vous avez laissé ce matin sur une de vos remarques qui était que nous manquions de représentativité. Nous, académiciens, mais nous, plasticiens, français en particulier. Et qu'il fallait y remédier. Et vous indiquiez qu'il fallait qu'on soit plus présent auprès des grands musées nationaux, qu'on soit plus attentif aux choix qui se faisaient probablement au ministère de la Culture et à ses différentes délégations. Moi, je dis que nous faisons un travail, nous, académiciens, de réflexion sur nous-mêmes. Nous commençons par avoir cette réflexion d'être le plus disponible pour un regard sur notre temps. C'est ça notre travail, qui est un travail très difficile, surtout lorsqu'on est dans des jurys, à décerner des prix, à aider justement la nouvelle génération à s'épanouir à la Casa Velázquez ou autre lieu qui dépendent de nous. Donc il y a cette dimension qui est, peut-être que je l'extrapole un peu, mais nous sommes au fond une espèce de contre-pouvoir qui s'exprime par les moyens que nous donnons justement à nos contemporains plus jeunes pour pouvoir s'épanouir. Donc il y a, si vous voulez, cette recherche désespérée qui est d'être représenté, d'être présent. Moi, je sens une certaine sérénité, je crois, les uns et les autres, à mener nos œuvres. C'est là l'essentiel. Et alors après, évidemment, il y a ceux qui bénéficient. Bon, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes qui relèvent d'une politique culturelle d'État qui ne sont pas sains et qui promeuvent, parce qu'ils sont obligés d'avoir, et il y a des artistes complices de ces promotions qui font que, effectivement, alors on répète, il y en a un en ce moment, il a 3 expositions dans 3 lieux majeurs. Bon, moi je veux bien, moi je connais bien le travail. Bon, je ne suis pas là pour porter des jugements de valeur sur un de mes confrères, mais quand même, il y a là, si vous voulez, il y a quelque chose de vicié. Et Nous ne sommes pas dans cette relation-là à la création, à l'expression de notre temps, et nous sommes attentifs aux autres, mais sans recherche, sans vanité.
Simplement, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, nous faisions le constat, ou je faisais le constat, en voyant tout le slideshow qui a été montré des activités de chacun des membres de l'Académie, enfin des académiciens de l'Académie des Beaux-Arts, qu'il y avait une originalité, une inventivité de toutes ces personnes qui n'est pas reconnue à la juste valeur. Et je soulignais qu'effectivement, peut-être, un chausseur doit être bien chaussé, donc vous avez la chance d'avoir un lieu d'exposition, peut-être que l'Académie devrait être à l'origine de petites expositions qui mettraient en valeur, peut-être, le travail des académiciens. C'était ça ma remarque. Peut-être dernière intervention, parce qu'il est tard déjà.
Oui, monsieur Guy Boyer, vous sembliez dire qu'il fallait que l'Académie absolument se modernise un peu, prenne quelques artistes contemporains. Et que ferait-elle alors? Sinon, prendre, disons, les artistes qui sont le résultat d'un choix bureaucratique pendant 30 ans en France.
Non.
Absolument, puisque c'est quand même au ministère de la Culture que c'est fait, que se sont faits tous les choix pendant 30 ans. Et maintenant, ce choix bureaucratique est en train de se transformer en choix d'une, disons, de produits financiers par quelques grands collectionneurs qui s'amusent dans l'international à miser sur un tel ou un tel. Franchement, je pense que l'Académie a mieux à faire que à s'intéresser à ça. Et par contre, à s'intéresser à ce qui a été nié totalement par le négationnisme absolu du ministère de la Culture pendant 30 ans, pour la peinture, la sculpture et la gravure, qui existent, qui continuent à exister. Et vous savez, par exemple, je pense, moi je suis graveur, et dans le domaine de la gravure, vous avez au moins une cinquantaine de très, très, très bons graveurs en France, qui n'existent absolument pas pour l'art officiel, qui n'existent pas sur le marché parce qu'il n'y a plus de marché. Et pourtant, si vous les mettez en comparaison avec les graveurs du début du 20e, du 19e, du 18e et du 17e, eh bien, ils sont absolument aussi, à un niveau aussi élevé. Et pourtant, ils sont très originaux, ils existent dans tous les, je dirais, dans toutes les sources d'inspiration. Vous avez un certain réalisme, vous avez de l'abstraction, vous avez de l'imaginaire, vous avez du fantastique, vous avez absolument tous les courants qui sont là. Donc, franchement, je pense que l'Académie n'a vraiment pas à s'occuper de ce dont tout le monde s'occupe, et ça rétablira... au moins, disons, ça amoindrira le négationnisme que nous avons connu pendant 30 ans.
Je partage effectivement la moitié de votre remarque, c'est-à-dire la moitié de la fin. Je suis d'accord avec vous que la peinture, par exemple, est un art sous-représenté dans les institutions nationales.
Sous-représenté, pas représenté.
Ou pas représenté, mais souvent, elle peut être représentée, mais pas assez. Elle n'est pas à sa juste valeur. Et personnellement, dans mon journal, je me bats pour parler de peinture le plus souvent possible, même si certains ont décrété que c'était un art du passé, mais je ne pense pas à ça du tout. En revanche, je pense quand même que l'Académie peut s'ouvrir, qu'il y a de grands artistes qui n'ont rien à voir avec le marché de l'art, rien à voir avec le ministère de la Culture. Je pense, mais comme ça, à un Pierre Soulages, à un Bernard Venet, à un Raymond Depardon. Ce ne sont pas des artistes du ministère et qu'ils pourraient peut-être apporter quelque
Bernard
chose.
Bernard Venet est un artiste qui est à New York et Soulages a tout à fait été reconnu par le ministère. Vous ne pouvez pas dire le contraire.
Ce sont des artistes totalement fabriqués par le ministère, ceux dont vous avez parlé.
Nous allons arrêter là. Nous allons arrêter là en vous remerciant toutes et tous d'avoir participé activement à cette journée. Ah, pardon, Éric.
Je me permets quand même de faire un commentaire après ces deux interventions. C'est qu'on ne peut pas, on ne peut plus raisonner comme si c'était le ministère des Affaires culturelles français qui définissait la notoriété des artistes dans le monde contemporain tel qu'il existe
ça,
actuellement. Donc on ne peut pas, on peut absolument pas leur imputer la responsabilité d'une notoriété ou non de notoriété à une époque quand même où les artistes ont des notoriétés internationales, même que sans, quand ce ne sont pas des artistes comme les architectes, les quelques dizaines d'architectes qui monopolisent les très très grandes agences. Il en est de même des artistes. Il y a quelques artistes qui tiennent le devant de la scène, mais pas seulement à cause du ministère des Affaires culturelles français. Et derrière eux, il y a beaucoup d'artistes de bonne qualité, qui sont évidemment beaucoup plus modestes à tout point de vue, mais qui continuent à faire leur travail honnêtement.
Disons en tout cas que l'époque est révolue, si tant est qu'elle a existé. Merci. Je crois qu'il faut arrêter là. Je remercie Guy Boyer pour cette animation. Je remercie les 5 confrères. Les 5 confrères qui ont bien voulu présenter des exposés, et je vous dis peut-être à la prochaine fois.
Merci.
Vous venez d'entendre le dernier volet de la retransmission d'une journée à l'Académie des Beaux-Arts, intitulée « Une journée entière à l'Académie des Beaux-Arts ». C'était le 28 novembre 2012 et vous venez donc d'entendre le débat final et les questions-réponses avec la salle.